Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Leurs jours sont comptés. Ces bâtiments à flanc de falaise vivent une menace de tous les instants. Un danger que certains n'ont pas vu venir, à l'image de cette habitante de Vendée qui vient tout juste d'y acquérir un appartement en bord de mer.
La notaire est passée vite fait, elle m'a dit que c'était bon, il y en aurait pour encore 100 ans, donc j'étais tranquille, d'ici là je serais morte, suite aux différentes tempêtes qu'il y a eu récemment. En fait, ce serait plus 100 ans, mais 30 à 50 ans. Peut-être qu'un jour, je vais devoir partir.
Les spécialistes ne se font pas d'illusions. Montée des eaux, érosion, les défis qui attendent la France sont massifs. À en croire, un rapport publié la semaine dernière par le CEREMA, un centre de recherche public spécialisé dans l'aménagement du territoire. Ces prévisions à l'horizon 2050 et 2100 tablent sur une aggravation galopante du phénomène. Sur cette carte, les départements touchés par l'érosion. De 32 à l'horizon 2050, le nombre de logements touchés par l'érosion des côtes devrait ainsi passer à plus de 51 000 dans le seul Pas-de-Calais d'ici 2100. De 75 à près de 30 000 dans le Calvados. Parce qu'ils savent que ces chiffres froids ne sont pas suffisants pour alerter la population et les élus, certains scientifiques, grâce à des modélisations mathématiques, ont mis au point cet outil de réalité virtuelle qui permet de se rendre compte des défis à venir.
Voilà ce qui risque de se passer en 2100. Des volumes d'eau qui arrivent très violemment dans la rue d'Étretat. La première réaction, c'est terrible. Mais justement, le but du projet, c'était de leur montrer ce qui risquait d'arriver. Et surtout de réfléchir ensuite avec eux sur ce que pourra être leur ville côtière de demain, en prenant en compte ces aléas futurs qui vont malheureusement arriver.
Face à cette chronique d'une submersion annoncée, est-il encore temps d'agir? Peut-on la contrer ou est-on condamné à s'adapter à la nouvelle donne? Faut-il déjà entamer le déplacement de milliers de logements, voire des communes entières, vers l'intérieur du littoral?
Nos trois invités, Sébastien Jumel, bonsoir monsieur, vous êtes député bonsoir. Communiste de Seine-Maritime, vous avez été maire de Dieppe de 2008 à 2017, c'est bien ça.
C'est ça.
Une des villes particulièrement touchées précisément par l'érosion du littoral. En novembre dernier, un blockhaus s'est effondré à Dieppe, victime de l'érosion du littoral et de l'écroulement d'une falaise. Et vous considérez que c'est un phénomène identifié depuis plus de 40 ans, mais vous avez très peu de dispositifs légaux pour prendre en charge les risques afférents à cette érosion du littoral. On va évidemment en parler au cours du débat. À côté de vous, Esther Crozer-Delbourg, bonsoir, économiste de l'eau. Vous êtes docteur de l'École Polytechnique et de l'Université de Columbia à New York. Selon vous, il faut arrêter les grandes constructions sur le littoral, car l'érosion s'accélère du fait de l'artificialisation des sols. Il va falloir apprendre à vivre avec les débordements de l'eau, avec des protocoles de sécurité stricts et simples. Alors pour la simplicité, vous allez nous expliquer ça tout à l'heure, hein, Esther. Et enfin, Amandine Richaud-Crambe, bonsoir madame, urbaniste et ingénieure en environnement. Selon vous, les maires et les élus ont fait de mauvais choix d'urbanisme en donnant de nombreux permis de construire sans mesurer les risques. Le vrai problème, c'est la proximité du bord de mer. On ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre sur des pilotis. Et on démarre avec la déclaration du jour,
oui,
Benjamin.
Elle est signée du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Je le cite, l'équivalent d'un terrain de football disparaît chaque semaine dans notre pays sous l'effet de la progression des océans, il y aura des zones inhabitables et notamment, selon le ministre, 20% des côtes françaises sont donc grignotées actuellement par l'érosion côtière. Sébastien Jumel, vous qui êtes donc, on l'a dit, ancien maire de Dieppe, vous avez constaté de vos yeux ce grignotage au fil des mois, des années de la côte de Dieppe, vraiment ?
Oui, ceux qui vivent sur le littoral savent d'abord qu'une falaise est vivante et que le recul du trait de côte n'est pas un phénomène nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est l'accélération du processus. Et le réchauffement climatique n'est évidemment pas étranger à cette accélération.
Avec la montée des océans du fait du CO2.
La montée des océans. Et puis un double phénomène, si vous le permettez. Le recul du trait de côte, c'est une érosion par le bas des falaises et une érosion par le haut des falaises, les poches argileuses qui se gorgent d'eau avec les inondations et qui explosent et qui décrochent 20 000 mètres cubes de falaises, de craie, pour ce qui concerne Dieppe, lorsque j'étais maire, avec des problématiques particulières à gérer, effectivement.
Esther Crozer-Delbourg, c'est un phénomène inéluctable, finalement, ce qui est en train de se passer ?
L'érosion en elle-même, comme on l'a dit, c'est un phénomène qui est naturel, donc ça arrive, mais c'est beaucoup plus lent que ce qu'on peut observer sur les côtes françaises. On parle des côtes françaises, mais ça se passe sur toute l'Europe. Hein. L'Espagne se fait aussi dévorer petit à petit. Et l'Espagne, notamment, c'est un bon exemple sur l'artificialisation, c'est qu'elle a tellement bétonisé ses côtes pour le tourisme, mais de façon complètement irresponsable. On ne savait pas tout à l'époque, mais maintenant on le sait, qu'en fait, on a fragilisé nos sols. Plus on perce pour mettre du béton, plus on empêche au sol non seulement de respirer, de pouvoir se gorger d'eau et de nous la restituer quand il faut. Donc évidemment, on accélère tous les phénomènes naturels d'érosion.
Oui, c'est vrai qu'Amandine Richaud-Grand, on n'avait pas anticipé ce réchauffement climatique. On peut peut-être jeter la pierre à nos responsables politiques, mais est-ce qu'on a vraiment pris trop de risques ou on ne savait pas quel était le risque ?
Je ne dirais pas qu'on ne savait pas, parce qu'on a un savoir qui a été perdu. On a un savoir des anciens qui a été perdu, et notamment sur les inondations, quand on parle des lits majeurs de rivières et des crues centennales, par exemple, ou certains endroits où on avait déjà des terres fragiles. Ça se connaissait. Effectivement, la question du réchauffement climatique, du changement climatique, n'était pas là. Mais on a quand même, depuis 72, avec les traités de Rome, on a quand même des infos, des idées.
Le rapport Meadows, vous faites allusion au rapport Meadows du Club de Rome.
Et donc, on aurait pu anticiper.
On aurait pu anticiper, et on peut, même là, depuis les années 2000, il y a plein de choses qui auraient pu être faites pour faire de la prévention, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que la prévention coûte bien moins cher que ce qu'on appelle la réparation. On est passé, je crois, on est presque à 6 milliards cette année. Dans le monde, on est à plusieurs centaines de milliards, 270, quelque chose comme ça. Et ça a triplé, voire quadruplé.
Vous parlez de coûts, vous parlez du coût afférent.
Du coût de la réparation, alors que c'est des choses qu'on pourrait investir dans justement l'adaptation et la prévention.
Alors, une illustration concrète avec l'image du Signal. Vous allez voir la photo de cette barre d'immeuble en 67, en Gironde, du côté de Soulac-sur-Mer. Et puis, grâce à notre archive, on va revoir le fameux Signal qui avait été construit et qui se retrouvait à 200 mètres du trait de côte et qui est en 2010 menacé par l'érosion et la montée des eaux.
Une résidence des années 70 avec vue imprenable sur la mer. Dans la station balnéaire de Soulac, un rêve de vacances désormais menacé par l'avancée de l'océan et l'affaissement constant de la dune. Lors de la dernière tempête, l'océan a avalé 15 mètres de dune dans cette zone fragile, zone à risque classée rouge en 2002.
Là maintenant, en pied de dune, il y a 23 mètres entre le pied de dune, là où arrive l'eau, et la résidence. Et à l'époque, il y avait plus de 100 mètres.
Derrière sa façade récemment ravalée, le Signal abrite 78 appartements, dont une minorité occupée toute l'année. Au pied de la dune, un apport de sable vient d'être réalisé pour tenter de ralentir l'offensive des vagues.
Et donc on va voir que cet immeuble, ben voilà ce qu'il en reste, c'est-à-dire plus rien, il a été démoli l'an dernier, c'est assez impressionnant ces images, Sébastien Jumel. Vous avez eu des cas similaires, vous, sur votre côte? Il a fallu démolir des bâtiments parce qu'ils étaient en péril?
Oui, tout à fait. En 2012, le BRGM, Bureau d'études spécialisées de l'État, attire mon attention sur un phénomène de recul du trait de côte brutal. À l'époque, on pose des dispositifs pour être en alerte, pour mesurer les mètres grignotés. Un jour de février 2016, le préfet m'appelle, le BRGM était sur place et me dit « Monsieur le maire, il faut prendre un arrêté d'interdiction d'habiter, il faut couper cette route, une route très touristique qui mène à Pourville-sur-Mer et Varengeville-sur-Mer, pour les Parisiens qui connaissent cette belle côte. » Et il va falloir penser à relocaliser un stade de rugby, une piste d'athlétisme qui jouxte un lycée, un collège du territoire. C'est évidemment une décision difficile à prendre pour un maire. Et j'ai pris cette décision. On a indemnisé avec le fonds Barnier les propriétaires. Je le dis, l'argent ne fait pas tout. Lorsque je rencontre, je me souviens de son nom, monsieur Hockey, un toubib pour lui dire il va falloir partir. Au début, il me dit tant que je serai en vie, je resterai dans ma maison. C'est mon histoire, j'ai de l'affect, j'y ai mes souvenirs. Il faut discuter, il faut dialoguer, il faut respecter. Et puis ensuite, et donc le fonds Barnier couvre ça correctement.
Le fonds Barnier, du nom de Michel Barnier, qui était ministre de l'Environnement.
Pour ce qui concerne la piste d'athlée, le stade de rugby,
c'est à la charge de
la route. Les collectivités ont dû se débrouiller. Et si je n'avais pas eu, à l'époque, la mobilisation des différentes collectivités, on était bec dans l'eau. Je le dis parce que c'est un petit sujet.
On va y revenir.
Un gros sujet.
Oui, l'argent.
Songer,
on va y revenir.
Mais sur le littoral d'Yépois.
Bien sûr.
Varengeville-sur-Mer, avec la tombe de Malraux dans l'église de Varengeville, est concernée.
C'est ça. Il y a en plus tout un patrimoine qui peut être concerné par cette érosion.
Esther Crozer-Delbourg, c'est vrai qu'on se dit, alors comment s'adapter d'ici 2100 ? Est-ce qu'il faut déplacer carrément, ou on peut se contenter de surélever ? On se dit, comme avec des méthodes peut-être préhistoriques, mais sur pilotis, on peut essayer de sauver des villes entières, ou ça, c'est du domaine complètement irréel.
Alors, s'adapter, on peut s'adapter, mais il n'y a pas besoin forcément partout et pas forcément au même moment. Il y a des endroits qui vont survivre si simplement on les protège. On sait qu'il y a des endroits où, effectivement, si ça va tomber, là, effectivement, il faut partir. S'il peut y avoir mort d'homme, la question ne se pose plus. Oui. Par contre, la question se pose pour toutes les catastrophes climatiques qui arrivent petit à petit. Les inondations, comme les grosses canicules, comme les retraits gonflements d'argile qui font que les maisons se fissurent et peuvent tomber, etc. Mmh. Donc là, il faut regarder au cas par cas, il faut identifier les régions les plus critiques. S'adapter, ça ne veut pas forcément dire déménager. On peut rester au même endroit si on sait se protéger. Alors l'inondation, on sait se protéger, il faut juste déjà le faire. Le retrait gonflement d'argile aussi, on sait se protéger. L'important, c'est de savoir effectivement comment est-ce qu'on réagit en cas de problème ? Et c'est là qu'on parlait des protocoles. Pourquoi je dis que c'est simple ?
Oui.
Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une alliance, pour l'instant, entre tous les acteurs qui sont fragmentés de l'adaptation. L'adaptation, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est de la logistique ou c'est de la construction.
Mais vous pouvez donner un exemple ?
Bien sûr, je vous donne un exemple. Alors, je prends l'inondation parce qu'effectivement, avec ce qui s'est passé dans notre Pas-de-Calais...
Oui. Récemment, la semaine dernière,
en
Bourgogne,
on a vu des choses. Donc, l'eau est montée très, très lentement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans tous les acteurs qui coordonnent ce genre de choses, vous avez les assurances, les maires, la police, la gendarmerie, la préfecture, Météo France, etc. Tous ces gens-là détiennent une information qui doit rentrer dans une chaîne, en fait, un peu d'information complètement continue, qui puisse dire à chaque personne qui habite à ces endroits-là, quand ça arrive, voilà exactement ce que vous devez faire. Si jamais il y a trop d'eau, on vous prévient, vous ne bougez pas. Une assurance ne vous couvre plus si vous prenez votre voiture pour sortir de chez vous alors qu'on est en alerte rouge. C'est bête, mais ça, si on ne le sait pas et qu'on glisse sur la route, ça fait toujours d'autant plus de dégâts. Ensuite, si on sait qu'il y a une alerte canicule, il faut qu'on sache exactement quels sont les gestes pour protéger, il faut qu'on sache quels sont les endroits où on peut se réfugier, quels sont les numéros à appeler. Tout ça, c'est pourquoi je dis que c'est simple, c'est parce que c'est de l'information en amont et il faut que tout le monde la construise en même temps. Voilà.
Non, mais ça, c'est des principes de réaction, en effet, en cas d'inondation. Mais là, on se dit qu'il y a des villes qui sont et des côtes qui sont vraiment
500 communes menacées, 450 000 maisons menacées.
Attendez, Amandine Richaud-Crambe, on a lu des phrases dans notre documentation de spécialistes qui disaient qu'il faut faire des choix entre les côtes qu'on protège et celles qu'on va abandonner.
C'est un peu ce qu'a dit Madame juste avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution unique. Ça va être du cas par cas en fonction des différentes difficultés ou des différents reculs ou submersions. Mais il va falloir faire des choix.
Mais sur quels critères alors on va faire des choix ?
Par exemple, alors c'est pas forcément de l'abandon, ça va être de la préemption ou ce genre de choses, ou c'est les collectivités qui vont, ou l'État qui va racheter vraiment des habitations les plus fragiles. Mais vous prenez l'exemple de Xynthia avec la ville de La Faute-sur-Mer.
La tempête.
C'est 700 habitations qui ont été détruites et abandonnées. Et c'est un choix. Est-ce qu'on reconstruit encore et encore ?
Donc on reconstruit ailleurs ?
Eh bien, je pense que pour certaines zones, il va falloir reconstruire ailleurs. On voit là, on a l'image de la ville de Biarritz juste ici. Typiquement, vous avez un certain nombre d'immenses maisons qui sont vraiment la moitié, dans le vide.
Mais qu'est-ce qu'on fait ? On les déplace, par exemple ? On se dit, il faut accepter que dans 10 ans, elles n'existent
plus.
Alors,
le problème qu'on a eu, c'est que il y a eu un choix à un moment donné et un rêve d'avoir de la population, de travailler et de mettre tous ses efforts, ses économies pour avoir une résidence secondaire. Il faut savoir que c'est 50% des maisons, en tout cas, qui sont concernées par ces risques-là, c'est des résidences secondaires.
50%.
Oui, à peu près, ça dépend des... C'est une moyenne, ça dépend des villes. Et on a vendu un rêve, en fait. On a vendu un rêve touristique, on a vendu un rêve économique, et qui, là, plus qu'un choix urbain, a été un choix vraiment économique. Sauf qu'en faisant ça, en grignotant, parce qu'aujourd'hui, l'augmentation de l'érosion, c'est quelque chose dont ça a toujours existé. Hein, c'est un
oui, mais là, il y a une accélération.
Mais c'est une accélération due à l'entropie et au changement climatique, puisque c'est les choix qui ont été faits. Mais on a supprimé les dunes, justement pour construire, on les a enlevés, où on prend du sable d'ailleurs, donc des alluvions qui ne sont plus là. On a bétonisé des alors mangroves, c'est pour d'autres pays, mais on va dire des marais. Vous prenez les landes, les forêts des Landes, c'est des marais. Et donc ça, c'est toutes des protections en fait qui existaient, sur lesquelles on est venu prendre de l'espace pour répondre à un rêve.
La propriété individuelle.
Exactement. On a compris votre point. Alors, on va évoquer, vous allez réagir avec vous, Fanny, un exemple, l'exemple des Pays-Bas qui se lancent dans la construction sur pilotis. Bon, on va voir ce que vous en pensez.
Et même plus que ça, vous allez voir, parce que la montée des eaux aux Pays-Bas, c'est un sujet depuis longtemps. Un quart du pays se situe sous le niveau de la mer et 7 Néerlandais sur 10 risquent d'être menacés d'inondation dans les années à venir. Le pays a donc réfléchi à toute une stratégie pour y faire face avec un premier principe. Stopper l'eau avec 20 000 km de digues, de dunes et de barrages qui sont régulièrement rehaussés à travers tout le pays. Et l'un des ouvrages les plus emblématiques, le voici, ce sont ces deux bras en fer, en acier même, 210 mètres de large, 20 mètres de haut, qui se ferment automatiquement lorsque l'eau monte à plus de 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est pour protéger Rotterdam, qui est le poumon économique du pays et le premier port européen. Le deuxième principe de la stratégie des Pays-Bas, c'est vivre avec l'eau. Ça signifie élargir des fleuves pour pouvoir en baisser le niveau, transformer des parkings en cuves pour récupérer l'eau en cas d'inondation, de crue, ou encore construire dans des zones plus hautes du pays avec des bâtiments qui sont eux-mêmes rehaussés, voire flottants. Par exemple, Amsterdam, regardez ce quartier de plusieurs dizaines de maisons flottantes, donc, qui a vu le jour il y a quelques années. Le principe est très simple, quand l'eau monte, la maison monte avec et les habitants sont donc toujours au sec. Des maisons comme celle-ci, il y en a désormais plus de 2000 aux Pays-Bas et l'idée s'exporte puisque le Japon prévoit désormais de construire une ville entière de 40 000 personnes sur une île flottante. Sébastien Jumel, est-ce que c'est envisageable ? Faisable en France, à Dieppe par exemple, ce genre de maison flottante ?
D'abord, je me permets de rappeler un principe qui me paraît fondamental. Il y a l'importance des regards croisés, et c'est utile d'avoir des regards scientifiques, théoriques, et de les confronter à la réalité. Mais le littoral, ce n'est pas seulement des zones à risque, c'est des zones à vivre, où il y a de la pêche, de l'industrie, des logements, du tourisme. 10% de la population française vit sur les territoires concernés, et donc, celui qui annonce vouloir tirer une croix sur ces 10% de la population, à mon avis, n'est pas dans une épure réaliste politiquement. Il y a donc besoin, un, de se nourrir des pays qui ont une expérience plus forte que la nôtre, et les Pays-Bas peuvent être source d'inspiration. Mais je reviens à Dieppe. À Dieppe, on a le phénomène du recul du trait de côte, et on a à ça, s'ajoutent les zones de submersion marine. Et j'ai dans ma ville une zone de 39 hectares que l'État, que le BRGM, que les différents services concernés ont dit, elle est potentiellement dans les 100 ans à venir une zone qui peut être submergée par la mer. Aujourd'hui, c'est une zone d'activité économique, des industries,
des emplois,
des commerces, quelques logements, etc. On a Zaké. On est allé voir Hulot pour dire il faut qu'on expérimente quelque chose.
C'est une
ZAC. La ZAC, c'est en gros un dispositif qui permet d'aménager d'une manière globale, cohérente, stratégique, planifiée, les 39 hectares concernés. Et l'une des solutions préconisées, discutées avec les services de l'État et avec les experts qui nous accompagnent, c'est de surélever de 80 cm, une partie des logements concernés. Évidemment, de ne pas prévoir des logements de personnes à risque, par exemple des personnes à mobilité réduite, d'enfants, d'écoles dans ces zones-là. La question de la prévenance des inondations est évidemment une question à anticiper. Je vais utiliser une formule peut-être pour faire réagir et qui va...
Allez-y. Mais
pour qu'il y ait développement durable, et c'est impérieux d'être résilient...
Il faut qu'il y ait...
Il faut qu'il y ait développement, sinon on est dans le sous-développement ou le déclin durable. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre, dans ces territoires... Je parlais tout à l'heure de l'église de Varengeville. Je ne sais pas si on pourrait chercher une responsabilité d'élu sur son implantation, mais voyez que...
Une réaction, justement, de votre voisine Esther Crozère-Delbourg sur cette idée de surélever.
Alors,
les méthodes.
Déjà, effectivement, on a une grande admiration, les économistes, pour les Pays-Bas, parce qu'ils ont appris à vivre avec l'eau. Alors, il y a effectivement des énormes infrastructures,
Alors, qui nous donne l'impression qu'on peut dompter l'eau. Évidemment, on ne peut pas. Bon, faut pas être économiste pour savoir, pour pouvoir le dire. Mais en tout cas, on ne peut pas. Effectivement, on ne peut pas murer l'eau. Mais ils sont intelligents parce qu'ils laissent rentrer l'eau. Et en fait, c'est la meilleure façon de le faire. Nous, en France, on a façonné notre territoire en se basant dans le lit des rivières parce que c'était là où c'était le mieux exposé. Là, on avait envie d'être. Et maintenant, on en subit les conséquences de plein fouet quand la rivière, elle a envie de rentrer chez elle. Bon, maintenant, on ne dit pas qu'il faut
délittoraliser.
Merci beaucoup. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il faut arrêter de construire davantage parce que les 7 milliards, voilà. Mais les 7 milliards
d'euros. Oui, mais cette solution-là de relever de 80 cm, est-ce que ça peut.
On n'est pas sur le littoral, là, on est.
Oui, tout à fait, mais est-ce qu'il faut le faire ou est-ce que vous pensez que c'est totalement éphémère?
On ne va pas prendre tout le littoral français, en tout cas le surélevé. Ce qu'il faut, c'est dans les endroits en fait, où l'eau pénètre, et là je pense plutôt à l'intérieur des territoires qui sont souvent inondés eux-mêmes, soit parce que c'est des cuvettes, soit parce que c'est des plaines et l'eau met du temps à sortir. Ouais. Là, oui, ça peut devenir intelligent de penser à surélever, pas forcément sur le littoral.
Alors, il y a bien sûr les victimes d'inondations, elles ont été nombreuses, ça suscite un certain désespoir. Écoutez ce commerçant de Bourthe dans le Pas-de-Calais début janvier.
Là, on en a ras-le-bol. Moi, je vous le dis franchement, si demain, là, le gouvernement... Tiens, j'en ai parlé tout à l'heure, monsieur le député, non ? Si le gouvernement serait capable de me donner à peu près la valeur de ma maison, même que je perds un peu d'argent, demain, je leur donne, je déménage, je rachète ailleurs, j'en ai marre.
Amandine Richaud-Cramp, vous êtes urbaniste, donc le problème, c'est l'expropriation, c'est qui paye, est-ce que l'État peut payer et dans combien de temps? Les échéances sont courtes.
C'est pas un problème, l'expropriation, puisqu'on se retrouve quand même avec 70% du prix.
L'État vous paye l'équivalent de 70% de la valeur d'achat de votre maison.
Exactement, et on peut avoir avec la loi Bernier, en fait, justement, un coût supplémentaire. Mais imaginez ces pauvres personnes et ces gens, en plus, le Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même. En tout cas, le Nord, il y a une partie qui est sous le niveau de la mer, qui est aussi dans des zones inondables. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi rappeler que ce fameux rêve pavillonnaire, pour les personnes et les ménages les plus modestes, c'est là où on les a mis dans des zones qui sont en plus vulnérables naturellement. Et ce que je pense, c'est comment, à combien on estime la vie de certaines personnes, en fait ?
Mais au-delà de ça, qui va payer dans le cas de ces expropriations ? Attendez, Sébastien Jumel, vous avez une idée ?
L'État, le fonds Barnier, au regard des projections du nombre de bâtiments concernés, plus de 5000 logements d'ici 2030 seront concernés, n'est pas suffisant. Il faut donc réfléchir à des modalités de financement pérennes. Pourquoi pas une taxe additionnelle sur les droits de mutation ? Pourquoi pas, et moi je le souhaite...
C'est quoi les droits de mutation, pardon ?
Les droits de mutation, c'est que quand vous vendez une maison et que vous l'achetez, une taxe est perçue. D'accord. Et si on l'augmentait de 0,01, ça pourrait alimenter le fonds Barnier ou que sais-je encore.
Mais ça veut dire que les municipalités doivent provisionner aujourd'hui pour parer à ce genre
d'événement. Écoutez, c'est une question de solidarité nationale. Ouais. Je veux le dire aussi avec cette force-là. Si on laisse les communes littorales se débrouiller seules dans leur coin, on ne résoudra pas le problème. De la même manière, si on ne travaille pas la gouvernance avec une gouvernance plus resserrée, plus efficace, où l'ensemble des acteurs est autour de la table pour prendre soin des gens, on n'y parviendra pas. Et enfin, moi, je pense qu'il faut mettre à contribution les assureurs.
Ah, alors... et ben justement, vous avez travaillé chez AXA. Oui. Votre voisine a travaillé chez AXA il y a très très longtemps, paraît-il. Non, mais il paraît que c'est vrai. Alors, les assureurs, ils sont capables d'endosser ça ?
Alors, il y a deux choses. Effectivement, les assureurs ont subi à peu près 6,5 milliards de dommages en 2023. C'est la troisième année derrière 99 et 2022. Donc, ils parlent de ce qu'on appelle une inflation climatique qui en gros, amènerait à ce qu'on augmente les primes chaque année parce qu'on sait que même si par exemple à Paris on n'est pas touché, eh ben, le sud de la France sera davantage touché et il faut payer, c'est normal pour eux aussi. Donc oui, les assureurs vont devoir mettre la main à la pâte. Attention parce qu'une zone qui n'est plus assurée, une zone blanche comme on l'appelle, ça devient une zone qui économiquement est morte en fait. Donc effectivement, il faut qu'il y ait ce jeu d'équilibre entre les assureurs et l'État pour qu'on puisse tous continuer à vivre confortablement.
Et en 2025, ça va coûter... entre, si je ne m'abuse, entre 10 et 50% plus cher l'assurance, justement, à cause de ces catastrophes.
Mais si on observe les dividendes des assurances, il y a de quoi prendre.
Bon, et ben voilà, Sébastien Jumel a conclu le débat. Merci en tout cas d'avoir exploré notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles. Et partagez le podcast avec vos proches.